le 13-14. Bruno Duvy.
L'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle. Alors prenez une carte, eh bien, Kiev en est le centre. Après près de 3 mois de guerre, nous avions envie aujourd'hui de parler de l'Ukraine autrement. Et paraît aux éditions Plon un dictionnaire amoureux de l'Ukraine. Le projet était dans les esprits depuis quelques années, il tombe à point nommé. Une partie des recettes ira à l'aide médicale et caritative France-Ukraine et à l'Académie nationale de musique de Kiev. Car ce dictionnaire, c'est un morceau à quatre mains et l'une des deux auteurs est musicienne, violoniste, mais aussi diplomate, ancienne attachée culturelle de l'ambassade d'Ukraine à Paris, Tetiana Andruchuk. Danielle Georget, rédactrice en chef adjointe à Paris Match, co-signe cet ouvrage. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions sur ce pays au cœur de la carte européenne et mondiale en ce moment. Et un grand bonjour à nos deux invités.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Alors, pour parler de l'Ukraine et parler d'autre chose que des bombes, quoi de mieux que la musique, le piano, et quel piano ? Tout petit extrait du concerto numéro 3 de Rachmaninov, interprété par l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, Vladimir Horowitz. Enfance à Kiev, dans une rue, ça ne s'invente pas, qui s'appelait la rue musicale. Danielle Georget, j'ai choisi Horowitz pour commencer, parce qu'on va parler de musique, évidemment, mais aussi parce que c'est un concentré de tout ce que l'Ukraine peut raconter. L'exil, l'apprentissage avec un professeur russe, le côté juif, et la communauté juive est importante en Ukraine, il y a tout dans la vie d'Horowitz.
Oui, il y a la guerre civile, ouais. qui va le chasser de Kiev, avec ce basculement d'une vie privilégiée, heureuse, oui. D'une famille où on peut faire de la musique de chambre entre soi puisque tout le monde joue d'un instrument particulier. Et puis tout d'un coup, c'est un changement d'univers. Le piano qui passe par la fenêtre, parce que le piano, c'est l'indice de l'appartenance à la classe bourgeoise. Oui. Et Horowitz qui doit arrêter ses études, il voulait les continuer, mais il va falloir que tout de suite, il gagne sa vie. Il va devenir très vite une petite star, la star de la Russie rouge, oui. mais il va choisir de partir pour l'Europe, pour l'Occident.
L'Europe, puis les États-Unis, il fera un dernier concert à Moscou dans les dernières années de sa vie. Tetiana Andruchuk, la place de la musique dans la culture ukrainienne, elle est fondamentale.
Elle est fondamentale, ouais. Vous avez bien choisi. Vous trouverez très peu de pays au monde qui gardent jusqu'à maintenant 200 000 des chansons folkloriques. Dont Bartok, dont tous les musiciens étaient folles de découvrir, raconter et de dire. C'est ça notre richesse et notre grande richesse pour tout. Pourquoi? Parce que cette chanson, on conservait notre langue. C'est Gogol qui a dit...
Gogol, le grand écrivain.
Gogol, Mykola Gogol.
Ukrainien.
Ukrainienne, qui a disait que les chansons pour l'Ukraine, c'est tout. C'est l'histoire vivante. C'est l'histoire qui nous apprend patriotisme, qui nous apprend tout. Absolument.
Et qui vous apprend notamment que les liens avec la Russie sont étroits, parce que vous, par exemple, à Kiev, vous avez eu un professeur russe.
Tout à fait. Mais qui a formé à Kiev toute une génération des violonistes ukrainiens. Donc, pour dire il est russe ou bien il est devenu déjà ukrainien. Vous comprenez, à certains pays, il faut pas réduire notre culture à la coordination avec la Russie. Pourquoi? Puisqu'il avait dans... c'était longue notre vie.
Votre
avec
histoire.
La Russie, 300, ouais. 400. Ouais. Et il y avait étape à 17e siècle quand toute la civilisation, toute la culture en Russie venue de l'Ukraine. Tout, à partir des religions, etc. Et les philosophes, littérature.
Évidemment. Je voulais rester sur la musique et on va venir sur l'histoire. Danielle Georget, l'un des premiers articles de ce dictionnaire amoureux, c'est le mot « âme ». L'âme, c'est la partie du violon qui permet à l'instrument de résonner. Et au fond, j'ai l'impression que vous avez écrit... Alors évidemment, Tetiana connaît ça par cœur, mais vous, pour comprendre cette âme ukrainienne.
Eh bien, moi je l'ai comprise grâce, enfin je l'ai comprise, qui peut avoir la prétention de comprendre une âme. Moi, j'ai été d'abord, Tatiana était le professeur de violon de ma fille, et j'ai découvert une façon, une relation de professeur à élève qui est absolument merveilleuse. La façon d'enseigner la musique de Tatiana, où c'était les parents qui se faisaient engueuler quand l'élève avait mal travaillé, parce que tout ce qui était mal reposait sur nous et tout ce qui était bien toujours reposait sur les élèves. Donc c'était assez injuste, mais c'était très efficace parce que les enfants l'adoraient. Oui. Les enfants l'adorent et on les voyait quand j'ai vu des enfants qui attendaient pratiquement au garde à vous devant sa porte parce qu'elle avait 5 minutes de retard et qui bronchaient pas. C'était.
Et vous dites, entre occidentaux et slaves, nos façons d'appréhender le monde sont différentes. Nous avons à l'esprit des jardins à la française. Nos amis slaves avancent dans une jungle qu'ils n'ont jamais prétendu domestiquer.
C'est ça. Donc il faut un peu, quand on travaille avec eux, il faut apprendre à débroussailler avec une serpe. Parce que nous, on a besoin de logique et eux, en fait, ils accumulent. D'ailleurs, ça se voit même dans leur décor. C'est une accumulation de livres, d'images, de souvenirs. Enfin, tout ça est très foutraque, on dira. Alors que nous, il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une méthode. Et c'est pour ça que nous sommes très complémentaires, je crois.
Et on trouve, alors évidemment, dans le contexte actuel, des mots sur le patriotisme qu'on n'entend plus aujourd'hui, par exemple en France. Petit extrait de ce dictionnaire, Tatiana, nous sommes le passé, le présent, les vivants et les morts, l'histoire, la géographie, la poésie, la passion, la raison ne guide pas toujours les hommes. Cette passion, ce patriotisme, c'est ce qui explique la résistance ukrainienne depuis 3 mois.
C'est une très bonne question. Et j'ai trouvé la réponse. Tous les débuts de mes pensées quand je voudrais écrire ce livre.
Oui.
Et j'ai tombé sur qui ? Sur Talleyrand.
Talleyrand.
Qui disait, oui, faute de richesse...
L'homme politique et diplomate au 19e siècle.
Tout à fait.
Ouais.
Il disait, faute de richesse, une nation n'est plus que pauvre. Faute de patriotisme, c'est une pauvre nation. Et voilà... Vous, les Français, vous les voyez maintenant que nous ne sommes pauvres. Nous sommes très riches pour donner toute notre âme, tout notre courage pour vous surprendre que nous voulons tenir à l'Ukraine. Nous voulons État démocratique, anticorruptionnaire, avec votre aide.
Françoise au standard pour poursuivre la conversation. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Je vois sur la petite fiche que vous nous appelez du Maroc.
Oui, absolument.
Nous vous écoutons.
J'ai vécu 5 ans en Ukraine jusqu'en 2020, et puis maintenant je suis au Maroc. Mais alors un dictionnaire amoureux de l'Ukraine, ben c'est merveilleux parce que je suis amoureuse de l'Ukraine et moi-même et ma famille en sommes tombés amoureux. Mais et j'apprécie évidemment la publication de ce livre. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'en suis amoureuse non pas uniquement pour ces magnifiques tradition culturelle, son histoire ancestrale qui est en fait un pays de complète légitimité, mais aussi pour sa modernité. C'est un magnifique pays moderne.
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ?
Des geeks dans tous les coins, des start-up dans tous les coins. Il y a au moins 2 licornes en Ukraine. Ce sont des gens extrêmement créatifs et pas seulement sur le plan artistique et culturel que je réitère, j'apprécie et j'ai apprécié magnifiquement.
Mais il y a aussi de la modernité.
C'est un pays moderne avec des gens qui bossent, qui sont capables de créer dans le monde moderne, qui font fondamentalement partie de l'Europe, ça, disons-le.
Merci Françoise pour ce témoignage. Daniel Georget, je voulais qu'on parle de la langue ukrainienne aussi, parce qu'au fond, il y a une bataille pour qu'elle existe quasiment depuis sa naissance. Le tsar Nicolas II, au début du XXe siècle, disait « il n'y a pas de langue ukrainienne, il y a seulement des paysans illettrés qui parlent petit russe ». C'est un combat la langue, évidemment.
Oui, c'est un combat. D'ailleurs, on s'est arrangé pour que les paysans restent illettrés, puisque dans toute la Russie, en Ukraine comme ailleurs, il n'y avait pas d'école. Enfin, nous, notre école nationale républicaine. C'est, il a fallu, c'est, je crois que c'est un des apports des bolcheviks, ça, l'école. C'est, il a fallu attendre la révolution pour avoir l'école obligatoire. Donc cette langue, elle a été interdite. Le grand poète ukrainien Chevtchenko a fait, je sais pas, 15 ans, 20 ans de forteresse. Il est né en serre, puisque ce sont les Russes qui ont introduit le servage en Ukraine. Il a d'abord été peintre, comme la grande famille ukrainienne ou polonaise pour laquelle il était serf, l'a envoyé faire des études d'art. Ce sont ses professeurs et ses collègues qui l'ont racheté. Et à la suite de quoi, il a pu faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire écrire en ukrainien, et ça lui a valu toute une vie de prison.
Tetyana Ondroutchouk, quel regard portez-vous sur le jeune président Zelensky ?
Vous savez, d'abord, je n'ai pas voté pour lui. Bien que je suis artiste, il est d'un côté, il a dû tout cela. Pourquoi ? Parce que ça m'a énervé que depuis plusieurs années que notre président a insisté de former l'armée ukrainienne, de la donner les armes, de montrer l'esprit de l'indépendance. Tout de suite, Zelensky a disait quelque chose autre. Au lieu des armées qu'ils font construire, parce que nous sommes après 2014, nous sommes toujours en guerre. C'est pour plusieurs qui s'est ouvert les yeux que nous avons la guerre depuis 90 jours presque. Et pour nous, ça c'est 2014 et même avant 400 ans.
Et aujourd'hui, son comportement aujourd'hui,
c'est idéal. C'est une découverte. Je dois vous dire que la caste des artistes dans laquelle j'appartiens un tout petit peu.
Vous, la violoniste.
Elle va vous étonner toujours. Vous ne connaissez jamais les toutous les dessins.
Ce qui est drôle, Daniel Georget, c'est que vous faites un parallèle avec Chaplin, alors que lui-même, Zelensky, a fait à l'ouverture du Festival de Cannes un parallèle avec le dictateur, mais pour parler de Poutine.
Mais il a en même temps cité le discours que Chaplin, dans son costume à la fin du dictateur, le chapelier dans son costume d'Hitler, fait quand il s'adresse aux soldats. Et c'est exactement le discours que moi j'avais reproduit dans le livre.
Et quel regard vous portez sur ce président Zelensky, vous qui vous êtes intéressé d'encore plus près que nous à la culture ukrainienne et à l'histoire?
Moi, j'ai été impressionnée par le fait que pendant des jours, tous les matins, en se réveillant, j'imagine que des millions de gens dans le monde qui connaissaient pas l'Ukraine se sont réveillés en se disant « Est-ce que Zelensky est encore vivant ?» Et parce que c'est lui qui tout d'un coup a personnifié un pays et un esprit de résistance. Et ça, c'est vraiment très impressionnant.
Tetyana Ondroutchouk, un dernier mot avant de se quitter. Alors, vous avez été attachée culturelle à l'ambassade d'Ukraine. Vous êtes arrivée au moment de l'indépendance, la chute du mur de Berlin, de l'Union soviétique, au fond avec l'obsession de ressusciter l'histoire ukrainienne qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, vous vivez où? Entre Paris et l'Ukraine, uniquement en France? Et est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec votre pays?
Mais bien sûr, chaque jour, et je commence par téléphoner à l'Ukraine, où se trouve maintenant, malgré l'exil, beaucoup, beaucoup de les Ukrainiennes, qui sont très attentifs à ce qu'il dit la France. Par exemple, je commence à envoyer la presse qui me semble très importante française. Merci à la France. Merci à la France. C'est une réponse, pas seulement de moi, mais je pense qu'il vient du cœur de tous les Ukrainiens.
Merci jusqu'au bout ou pas, parce qu'on voit les réticences pour intégrer l'Ukraine rapidement à l'Union européenne. Vous le dites toutes les deux dans ce livre, l'Ukraine est profondément européenne, mais pour l'Union européenne, il va falloir attendre. Est-ce que ça, vous le comprenez? Ça veut dire non, ça, je crois.
Moi, je dis non. Bon. Parce que nous avons donné beaucoup de force, beaucoup de sang pour que ça existe. Oui. Et nous avons vous persuadé de notre valeur européenne. Comment vous pouvez ne prendre? Si vous ne prenez pas, donc on commence à dire qu'est-ce que c'est cette Ukraine, qu'est-ce que c'est cette Europe.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans les studios de France Inter, les jardins à la française et la jungle à la slave. On a bien vu ça dans vos façons de vous exprimer toutes les deux. Daniel Georget, Tatiana Androuchouk, Dictionnaire amoureux de l'Ukraine, c'est chez Plon.